Nous avons vu dimanche dernier ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 14, où Jésus oblige ses disciples à le laisser seul et à faire la traversée de la mer de Galilée la nuit. Et au moment où ils font face à une tempête, Jésus vient à leur rencontre sur les eaux, en marchant sur les eaux. D'abord, ils croient qu'il s'agit d'un fantôme, mais dès que Jésus se présente et leur dit que c'est bien lui qui est là et qu'ils ne doivent pas avoir peur, Pierre lui demande de pouvoir aller à sa rencontre en marchant lui aussi sur les eaux. Et Jésus l'invite à venir, viens. Et dans un élan de foi, Pierre sort effectivement du bateau et se met à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Le texte nous dit qu'hélas, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, il n'a pas réussi à tenir sur la distance, car il a détourné son regard de Jésus. Voyant que le vent était fort, dit le texte, il eut peur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau et à crier à Jésus, « Sauve-moi !» Et Jésus le prend immédiatement par la main, le conduit à nouveau dans le bateau et lui dit ces paroles que je trouve pleines de tendresse et non pas de reproche. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ces paroles du verset 31. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Un autre passage se trouve dans Jacques, au chapitre 1er, versets 6 et 7. C'est un passage où Jacques exhorte le chrétien à demander à Dieu de lui donner de la sagesse. Cette sagesse dont on a besoin, n'est-ce pas, pour vivre la vie chrétienne de chaque jour. Et à la suite de cela, il dit ceci, à partir du verset 6, « Mais qui la demande avec foi, sans douter ?» Sans douter. Une autre traduction dit « sans hésiter ». Car celui qui doute, celui qui hésite, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà ce que Jacques nous dit. J'aimerais ce matin tisser quelques considérations sur cette question qui peut-être n'est pas abordée très souvent dans nos églises, la question du doute. Le doute. La place du doute dans la vie chrétienne. Y a-t-il une place pour le doute dans la foi et dans la vie chrétienne? Ou pour être encore un peu plus précis, le doute est-il pour ou contre la foi? D'abord, nous le savons bien, nous vivons dans une culture, dans une société qui nous a inculqué depuis le berceau, n'est-ce pas, la culture du doute. On ne finit pas le lycée sans avoir passé par le doute méthodique de Descartes, n'est-ce pas, que je résume par cette phrase, même si je sais qu'il y en a une autre. Je pense donc que je suis, moi je résume par la vérité, on ne l'accepte pas, on la cherche. La vérité, on ne l'accepte pas, on la cherche. Là où l'homme d'Afrique dit « je suis parce que nous sommes », le cartésien dira « je suis parce que je pense et parce que je doute ». À ce propos, il y a une anecdote en Afrique. C'est un Africain qui dit à l'un de ses compatriotes, tu sais, chaque fois que tu poses une question à un Français, il répond par une autre question. Ah bon, oui, allons voir. Et il s'approche donc d'un Français qui passe dans la rue et il lui pose cette question. N'est-ce pas vrai que vous, les Français, chaque fois qu'on vous pose une question, vous répondez par une question? Et la réponse du Français est telle ceci, mais qui t'a dit ça? L'un des ancêtres du cartésianisme, Aristote, appelait la sagesse l'art de bien douter. Et aujourd'hui, nos sages scientifiques, nos philosophes nous disent que le doute est la clé de la connaissance. Le doute est la clé de la connaissance. Ils considèrent que le doute joue un rôle fondamental en matière de philosophie et de science. Douter et mettre en doute, c'est une chance. Une chance pour la recherche, une chance pour la connaissance, pour l'invention. Qu'en est-il en matière de foi et de vie chrétienne? Y a-t-il de la place pour le doute dans la foi et dans la vie chrétienne? Soyons honnêtes, qui n'a jamais eu des moments de doute et d'interrogation, n'est-ce pas? De questionnement par rapport à beaucoup de choses qu'on lit dans la parole de Dieu, par rapport à la foi, à la vie chrétienne, par rapport à Dieu, par rapport à la vie, par rapport à la souffrance, par rapport à la vie éternelle. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu de doute, il peut lever la main. On est entre nous, on n'a rien à craindre, vous ne serez pas exclus. Il n'y a personne. Donc, tout le monde est passé à un moment ou un autre de sa vie par le doute. Le théologien Paul Tillich dit que croire, c'est embrasser la foi et le doute à son sujet. Même si d'ordinaire on oppose la foi au doute, même si certains considèrent que le doute est contraire à la foi, que le doute s'oppose à la foi, et qu'un véritable croyant doit être inaccessible au doute, car celui qui doute n'a peut-être pas véritablement la foi. Même si certains croyants emploient, si vous me permettez l'expression, la méthode Coué, n'est-ce pas, pour refouler, pour écraser, pour nier leurs doutes, et ils le font souvent en suraffirmant leur foi, je ne suis pas contre les confessions de foi, mais j'ai l'impression parfois quand elles sont très répétitives, n'est-ce pas, chaque fois qu'on a un rassemblement des chrétiens et qu'il faut répéter une confession de foi, je pense souvent à la méthode Coué, n'est-ce pas? On veut se convaincre que c'est ça, que c'est ça. En tout cas, le doute semble faire partie de notre nature, de la nature humaine. Il est, comme disait quelqu'un, un compagnon plutôt collant. D'ailleurs, certains le classent au même niveau que la fatigue, la crainte, la lutte et la tentation. En tout cas, le doute semble faire partie intégrante de notre vie. Il est une expérience, je dirais, commune à nous tous, à tous les hommes. J'ai cité dimanche dernier ce passage de l'Écriture qui dit que les tentations qui nous surviennent sont communes à tous les hommes. Et donc, nous, les chrétiens, nous n'échappons pas non plus ni aux tentations, ni aux épreuves, ni aux doutes. Eliot, l'auteur de ce chant universellement connu, Tel que je suis, que vous connaissez, je pense, n'est-ce pas, n'a pas nié cela non plus dans son célèbre chant, car à la deuxième strophe, il dit ceci: Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. John Bunyan, dans son fameux livre Le voyage du pèlerin, n'a pas non plus passé sous silence cette lutte du chrétien avec cette lutte brutale, parce que c'est de cela qu'il s'agit dans son livre, cette lutte brutale du chrétien avec le doute. Prisonnier dans le donjon du château du doute, comme il l'appelle, où il est torturé par le géant du désespoir, au point même de penser au suicide, chrétien ne s'en sort que grâce à son compagnon de route plein d'espoir, et à la clé retrouver des promesses bibliques qui lui permettent de s'en échapper. On sait que Bunyan, chrétien baptiste, a passé pas mal d'années en prison à cause de sa foi, n'est-ce pas? En tout cas, il a été au moins une douzaine d'années à la prison de Bedford à cause de sa foi. Et on pense que ce qu'il a écrit est finalement le produit de son expérience personnelle. Il a dû surmonter le doute lui aussi. L'histoire de l'Église à travers les siècles est là aussi pour nous dire que les grands serviteurs de Dieu, ceux qui sont entièrement consacrés à l'Évangile, ont eux aussi vécu des moments de doute et d'angoisse même. Ils se sont souvent interrogés et sérieusement interrogés sur le sens de leur vie, sur le sens de leur foi, de leur engagement, de leur action pour le Seigneur. La Bible ne cache pas non plus les moments de doute de certains personnages de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Bon nombre d'entre eux ont un moment ou un autre de leur vie fait face au doute. Je pense par exemple à Élie, n'est-ce pas, ce grand homme de Dieu, qui a eu un ministère plein de puissance, à qui Dieu a permis d'opérer des miracles fantastiques, qui a été nourri par des corbeaux, etc., etc. Cet homme, face aux menaces de mort proférées à son encontre par Jézabel, la femme d'Akab, cet homme se laisse envahir par le doute, par le découragement, puis par le sentiment d'échec et enfin par la dépression, même par la dépression. Heureusement que Dieu veillait sur son serviteur et le texte dit que Dieu lui a envoyé un ange le réconforter. Un ange le réconforter. Je pense aux psalmistes. Les psalmistes eux aussi sont passés par des périodes de doute au milieu de circonstances difficiles, de difficultés, de problèmes graves. Regardons par exemple les paroles du psaume 13. Au verset 2, il dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Ou le psaume 77, où il s'interroge « La bonté de Dieu est-elle à jamais épuisée ?» Nous avons fait référence dimanche dernier à la triste et terrible nouvelle que Jésus avait reçue, n'est-ce pas, de la décapitation de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, celui qui a préparé le chemin du ministère de Jésus, qui a reçu de multiples preuves de l'identité divine de Jésus, qui a vu lors du baptême de Jésus la colombe descendre sur Jésus et qui a entendu de ses oreilles la voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui qui a affirmé à propos de Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et pourtant, malgré tout cela, quelque temps après, cet homme de Dieu, alors qu'il se trouvait en prison, et la prison à l'époque, ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui, cet homme a été lui aussi assailli par le doute terrible à propos de la nature de Jésus. Du fin de son cachot, il envoie deux de ses disciples demander à Jésus s'il était vraiment le Messie. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question qui était dans la tête de Jean-Baptiste. Il a commencé à avoir des doutes. Et la réponse de Jésus a été de mettre simplement en avant les résultats de son ministère afin que Jean lui-même en tire les conclusions. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée partout aux pauvres. Et vous savez, le texte nous dit que malgré cette interrogation de Jean-Baptiste, Jésus n'a pas hésité, après le départ des deux disciples de Jean, à rendre publiquement témoignage de cet homme. Il affirmait qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Cela veut dire que le doute de Jean-Baptiste n'a pas entamé sa crédibilité auprès de Jésus. Un autre exemple, sans doute le plus connu de tous, n'est-ce pas, est celui de Thomas. Celui de Thomas, le disciple, l'apôtre Thomas, qui n'était pas là lorsque Jésus est apparu à tous les autres disciples. Lorsque ses confrères lui ont dit avoir vu le Christ ressuscité, voici la réponse de Thomas. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Quelques jours après avoir mis ses mains dans les plaies de Jésus, il s'est prosterné devant lui en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le doute de Thomas ne l'a pas empêché d'adorer le Seigneur lorsqu'il a constaté par lui-même que le Seigneur était bel et bien là, que la résurrection était vraie, était un événement vérifiable. Mais apparemment, Thomas n'était pas le seul dans cette situation, parce que l'évangile de Matthieu nous dit dans un petit texte qui passe souvent inaperçu, à la fin de l'Évangile, au chapitre 28. C'est un petit passage qui nous parle des doutes des disciples après la résurrection. Chapitre 28, à partir du verset 16, il dit « Les disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. » Selon cette traduction, les disciples sont divisés en deux groupes, ceux qui ont cru et ceux qui ont douté. Mais j'ai lu quelque part une autre autorité en matière de traduction biblique qui s'appelle Kate Reeves. Dans un cahier de traduction biblique, il affirme de manière assez convaincante que c'est bel et bien les disciples dans son ensemble qui doutent. Et il traduit différemment ce passage. Il traduit « ils adorèrent et ils eurent des doutes ». Pour lui, pour cet auteur, ce traducteur de la Bible, la coexistence de l'adoration et du doute est quasi simultanée. Les disciples dans leur ensemble étaient encore troublés, par des doutes. Ils se posaient encore des questions. Or, ces doutes ne les ont pas empêchés d'adorer Jésus, parce que le texte dit qu'ils ont adoré le Seigneur. Et on sait que par la suite, ce sont ces hommes-là qui sont allés partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, prêcher l'Évangile, n'est-ce pas? Et certains sont allés même jusqu'au martyr. Ils ont donné leur vie pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc, même si les disciples doutent, le fait qu'ils doutent ne les empêche pas d'être des disciples, ne les exclut pas du cercle des apôtres et ne les empêche pas d'adorer le Seigneur et finalement de prêcher la bonne nouvelle partout. Comme disait quelqu'un, la foi est un doute surmonté. Donc si cela nous arrive à nous aussi de douter, comme ça, cela semble être le cas, sachant que nous sommes finalement comme tous les autres, n'est-ce pas, dans la même lignée de beaucoup de serviteurs du Seigneur, de nombreux personnages de la Bible. Ceci dit, frères et sœurs, je pense qu'il faut faire la différence entre deux sortes de doutes. Il y a doute et doute. Le doute a au moins deux facettes. Moi, je dirais qu'il y a le doute. L'une des facettes du doute, c'est une facette qu'on pourrait dire positive, sincère, bénéfique. Une autre, c'est une facette plutôt négative, nuisible même à la foi. Parlons d'abord du doute négatif. Il est négatif et nuisible, disais-je, car soit il est le fruit de l'incrédulité et du scepticisme, de l'aveuglement spirituel, pour citer l'apôtre Paul, soit il conduit à l'incrédulité et au scepticisme, ou peut-être même les deux, je ne sais pas trop, il fallait encore réfléchir un peu plus à cette question. Il est peut-être la cause et l'effet de l'incrédulité. Ce doute apparaît dès la première page de la Bible, lorsque le diable, pour tenter l'homme, met en doute la parole de Dieu. Il nie même ce que Dieu a dit, n'est-ce pas, ce que Dieu avait dit. Il dit le contraire de ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà la parole de Dieu. Or, le diable va se servir donc du doute pour attaquer et détruire, pour insinuer le contraire de ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-elle réellement dit cela? Mais non, allons, allons, vous ne mourrez pas. Dieu a dit cela car il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Ce doute-là, ce doute qui vient du diable est le doute destructeur de la foi. Et vous savez, c'est toujours l'œuvre de Satan, n'est-ce pas, l'adversaire et ennemi de Dieu, notre ennemi, ennemi de nos âmes, de nous faire douter de la parole de Dieu et de la confiance en Dieu. La ruse de prédilection du diable est le doute, ce doute incrédule et sceptique. N'oublions pas qu'il a essayé aussi de semer le doute chez Jésus lui-même, le Fils de Dieu. À propos de son identité, lorsque Jésus se trouvait dans le désert, il dira à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela, jette-toi du haut du temple, transforme ces pierres en pain. » S'il a eu, permettez l'expression, le culot, n'est-ce pas, de tenter le Fils de Dieu par le doute, il ne se privera pas non plus de le faire avec nous, des proies beaucoup plus faciles que Jésus, n'est-ce pas? Il ne se privera pas non plus d'utiliser le doute contre nous. C'est lui qui, comme dit l'apôtre Paul, a aveuglé l'intelligence des incrédules et les a fait tomber dans le scepticisme, dans l'incrédulité. C'est triste de voir que beaucoup de nos contemporains sont atteints par l'incrédulité et par le scepticisme, n'est-ce pas? Ils adoptent une attitude de facilité face aux questions existentielles. Le sceptique ne se donne pas la peine de réfléchir sérieusement au sens de la vie. Il n'a aucune conviction profonde, car pour lui, la vie est tout simplement absurde. La vie n'a pas de sens. La vie n'est qu'un jeu où tout n'est qu'apparence et illusion. Il se laisse porter finalement par les circonstances. Il vit au gré des événements et de ses pulsions, de ses émotions, n'est-ce pas, de ses tendances, de ses plaisirs. Il ne prend rien au sérieux. Pour lui, il n'y a pas de réponse au sens de la vie. Il part du principe que la vérité absolue n'existe pas. À chacun sa vérité. D'ailleurs, la question de Pilate à Jésus, n'est-ce pas, le jour du procès de Jésus, cette question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Cette question ressemble beaucoup à du scepticisme, n'est-ce pas, car elle signifie à quoi bon se préoccuper de la vérité? Elle n'existe pas. Si elle existe, de toute façon, elle nous échappe, nous ne pouvons pas la connaître. Le sceptique est indifférent. Il est indifférent même aux grands problèmes qui se posent. Il refuse de soucier du sens de la vie, du monde. Il n'y a pas de réponse à ces questions. À quoi bon s'interroger? Ce doute-là, ce scepticisme, est contre la foi. Car c'est de l'incrédulité. C'est de l'incrédulité. Ceci dit, frères et sœurs, il y a heureusement le doute positif, sincère, le doute honnête, qui est, je dirais, même bénéfique à la foi. Le doute qui se demande, qui permet la réflexion, qui permet l'examen intellectuel des choses, l'analyse, l'approfondissement des questions qui se posent. Ce doute a pour fonction, finalement, d'éprouver la vérité des faits, des récits, des doctrines même de nos églises, n'est-ce pas? Ce doute a pour fonction de mettre en question les opinions, les idées, les interprétations, les affirmations nombreuses et variées de nos églises. C'est ce type de doute qui a permis aux chrétiens de Bérée, nous dit Luc dans les Actes des Apôtres, de recevoir la parole prêchée par Paul et Silas et ensuite de faire quoi? De vérifier l'exactitude de ce qu'ils avaient entendu de la part de ces serviteurs de Dieu. C'est ce type de doute qui a permis à Thomas de passer du doute à la foi. Même Luc qui a écrit donc l'évangile, l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres, il nous dit au début de son évangile qu'il a fait une enquête. Il a fait une enquête pour écrire ce qu'il a écrit de la vie de Jésus. Il n'a pas cru sur parole ce que les témoins lui ont dit, n'est-ce pas, de la vie de Jésus. Il y avait une tradition orale, mais il a voulu s'informer, connaître la véracité de ces faits. Il a vérifié les informations. Je pense que nous avons le droit d'en faire autant. Dans aucun domaine, y compris celui de la foi, nous n'avons accepté sans examen ce que l'on nous présente. L'apôtre Paul nous invite à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Il est normal et nécessaire de se demander si ce qu'on entend correspond bien au message de l'Évangile, à ce que Christ et les apôtres ont enseigné. Il est naturel de s'interroger sur les récits bibliques, sur leur nature, même sur leur style littéraire, pour ne pas faire des amalgames, leur authenticité, leur sens. Ce doute intellectuel qui examine, qui critique et qui vérifie me semble finalement nécessaire pour une foi intelligente et réfléchie qui sait que l'on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, n'est-ce pas ? Comme l'apôtre Paul le laisse entendre aussi dans ses lettres, d'ajouter à notre foi la connaissance, c'est ce qu'il dit dans la deuxième lettre, n'est-ce pas ? Cela nous empêchera de verser dans une crédulité aveugle, fanatique et superstitieuse, car il y a une différence entre la foi et le fanatisme et la superstition. Cela nous aidera à avoir une foi authentique et fondée sur la foi du Christ et des apôtres. Douter dans ce sens-là ne signifie rien d'autre que d'être vigilant. Être vigilant. Ce doute-là, sincère, allez, méthodique, comme dit Descartes, n'est-ce pas ? Vigilant et avec la foi. Ce doute-là est avec la foi et pour elle. Ce doute-là n'est pas contre elle. Je trouve que Thomas est un bel exemple du croyant sincère. Et j'apprécie beaucoup aussi les paroles de ce père qui a un enfant démoniaque. Cet homme qui va vers Jésus parce qu'il ne trouve plus de solution pour son fils. Et il va à Jésus avec ses doutes et même son incrédulité parce qu'il parle d'incrédulité. Il lui dit, « Seigneur, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus le reprend et dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de cet enfant s'écrie, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. »« Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Cet homme reconnaît croire et en même temps manquer de foi. Cela nous arrive souvent à nous, n'est-ce pas ? Cela nous arrive aussi à nous. Et il comprend finalement que Jésus peut l'aider à surmonter même son doute, son incrédulité et à croire totalement en lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus répond à la supplication de cet homme qui ne cache pas ses doutes, son incrédulité. La foi n'est jamais aussi sincère, aussi solide que lorsqu'elle a surmonté le doute. Et je pense qu'il n'y a pas de foi chrétienne qui ne passe pas par l'hésitation et le doute. C'est intéressant de voir comment les psalmistes dont je parlais tout à l'heure gèrent leurs doutes. Ils interrogent Dieu. Parfois, quand on lit certains psaumes, on se dit « Mais comment ils osent parler de cette manière à Dieu ?» Mais n'oublions pas qu'ils sont dans la souffrance, dans la difficulté. Ils interrogent Dieu, ils s'insurgent même contre lui. Mais quand on lit ces psaumes, on voit qu'ils n'oublient jamais d'adorer Dieu. Et souvent, les psaumes terminent par la louange et l'adoration. Au psaume 73, je vais terminer avec juste deux références bibliques. Au psaume 73, après toutes les interrogations, il termine son psaume en disant « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Au psaume 27, verset 9, il dit « Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Ils ont cherché, ils ont interrogé Dieu. Ils n'ont pas trouvé de réponse à toutes leurs questions. Parce que nous n'aurons jamais de réponse à certaines questions qui se posent. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. La Bible dit qu'il y a des choses des choses cachées qui appartiennent à Dieu. Il nous a révélé certaines choses, il ne nous a pas tout révélé. Et donc, nous devons rester avec ces interrogations et en même temps faire confiance au Seigneur. Ils n'ont pas de réponse à toutes leurs questions, mais malgré cela, ils ne laissent pas le doute s'installer dans leur cœur, ce doute incrédule, sceptique, n'est-ce pas ? Ce doute qui devient un doute destructeur de la foi, de l'incrédulité, du scepticisme. Nous qui sommes là ce matin, nous avons choisi, je pense, de faire confiance à Dieu et à sa parole. Et cette confiance, je pense que je peux l'affirmer, est plus forte que nos doutes. Cette confiance est plus forte que nos doutes. Ceci dit, n'oublions jamais ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit. Grâce à la foi, ils étaient faibles et devinrent forts. Grâce à la foi, ils étaient faibles et devinrent forts. Alors qu'au milieu de nos doutes, de nos interrogations, nous puissions toujours dire comme le psalmiste, « Je cherche ta face, ô Éternel ».